Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Un an après l'assaut du Capitole, le président Joe Biden refuse la violence politique. Donald Trump réplique, c'est du théâtre politique. Au Soudan, un manifestant a été tué lors d'un rassemblement contre le pouvoir militaire. La Chine va nommer un envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique. Dans un peu plus de 10 minutes, notre page sport sur la CAN 2021 au Cameroun avec Yacouba Ouédraogo. Et d'abord, le journal. C'est désormais un 6 janvier commémoratif de la tentative des milliers de partisans de Donald Trump d'empêcher la certification par le Congrès de l'élection de Joe Biden à la présidentielle de 2020. Nous retrouvons Yacouba Ouédraogo à quelques encablures du Capitole.
Les forces de sécurité sont stationnées à des points stratégiques dans un rayon d'environ 1 km autour du Congrès. C'est un 6 janvier qui divise quand même les Américains. L'Amérique ne peut accepter que la violence politique devienne la norme, a averti Joe Biden dans un discours prononcé dans le hall des statues au Capitole en compagnie de la vice-présidente Kamala Harris. Il a accusé son prédécesseur d'avoir tenté d'empêcher un transfert pacifique du pouvoir lors de l'assaut du Capitole, une insurrection armée selon les démocrates. Le président américain a promis de ne laisser personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie américaine. De son côté, le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, absent aux cérémonies à Washington, a publié un communiqué accusant les démocrates d'exploiter cet anniversaire pour promouvoir des objectifs politiques partisans. Depuis sa résidence de Floride, Donald Trump, en début de semaine, a qualifié de crime du siècle la fraude qui a entaché l'élection de Joe Biden, selon lui. Et pour rappel, le 6 janvier 2020, des milliers de partisans de Donald Trump ont pénétré dans le Capitole pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden par le Congrès. Et dans la foulée, la Chambre des représentants a engagé une mise en accusation de Donald Trump qui sera finalement acquitté par le Sénat en février 2021. Les démocrates de la Chambre des représentants ont créé une commission pour enquêter sur la responsabilité présumée ou non de Donald Trump et son entourage dans l'assaut du Capitole. Les conclusions de leur rapport, attendu en novembre 2022, n'ont pas de valeur juridique contraignante, mais ce sera juste avant les élections de mi-mandat. Un an après ces événements, quelques 700 personnes ont été arrêtées et 155 ont plaidé coupables.
Donald Trump a qualifié ce jeudi le discours de Joe Biden de « théâtre politique destiné à faire oublier les échecs du président démocrate ». Joe Biden a utilisé mon nom pour tenter de diviser encore plus l'Amérique, a-t-il affirmé dans un communiqué. Ce théâtre politique ne fait que détourner l'attention du fait que Biden a complètement et totalement échoué. Plus de 725 personnes ont été arrêtées depuis l'attaque du 6 janvier. Un an plus tard, certains des émeutiers qui ont été condamnés pour divers crimes parlent de cette journée et de leur action. Reportage de Caroline Pressouti de la VOA, rendu par Nanit Talani.
Sur les milliers de partisans de l'ancien président Donald Trump qui avait pris d'assaut le Capitole, plus de 725 ont été arrêtés et inculpés de crimes divers. Le Floridien Robert Scott Palmer a reçu la peine la plus sévère, plus de 5 ans de prison pour avoir agressé un policier avec une arme dangereuse. Palmer a été vu dans la vidéo en train de pulvériser des agents avec un extincteur, puis jeter la cartouche sur le policier. VOA devait interviewer Palmer, mais il est en quarantaine, en prison, après avoir attrapé le Covid-19. Dans une lettre au juge avant sa condamnation, Palmer a blâmé l'ancien président Donald Trump et ses conseillers, écrivant « Il n'arrêtait pas de cracher le faux récit d'une élection volée et du fait que c'était notre devoir de résister à la tyrannie. » Un autre émeutier originaire de la Floride, Felipe Marquez, a dit que de fausses histoires sur la traite des êtres humains l'ont amené à rejoindre le soulèvement et à envahir le bureau d'un sénateur. Marquez a plaidé coupable de conduite désordonnée et a reçu sursis de 18 mois. Il a déclaré à VOA dans un email « Je voudrais laisser cela dans mon passé comme une erreur ». Felipe Marquez.
I was trying to get more known for conservative.
J'essayais d'être plus connu pour être conservateur et pour obtenir des vues sur YouTube, mais la façon dont les événements se sont déroulés était terrible.
John Lewis de l'Université George Washington suit chaque cas de ceux qui avaient pris d'assaut le Capitole. John Lewis.
You have defendants from 18 to 80 years old.
Ici, vous avez des prévenus de 18 à 80 ans. Vous avez des personnes de tous les horizons, du propriétaire d'un salon à d'autres propriétaires d'entreprise, aux pompiers, aux forces de l'ordre et à l'armée.
Plus de 80% ont été inculpés sur la base de preuves recueillies à partir de publications sur les réseaux sociaux, souvent les leurs. La Texane Jennifer Ryan a gagné en notoriété après avoir tweeté cette photo devant une vitre cassée. Et son tweet qui disait « Nous venons de prendre d'assaut le Capitole. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. » Jennifer a dit ce qui suit. Jennifer Ryan.
Je suis entrée dans le Capitole pendant 2 minutes et j'en ai des remords.
D'autres ne commentent pas, comme l'homme qui avait posé ses pieds sur le bureau de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Richard Barnett fait face à 7 chefs d'accusation. Il se plaint des conditions de détention.
Vous pouvez m'aimer ou me détester, vous pouvez aimer et détester ce que j'ai fait, mais tu dois mettre cela de côté parce que ce n'est pas à propos de moi. Il s'agit de notre système pénitentiaire fédéral en Amérique et de ce qu'ils font aux gens.
Les procès ont été évités dans la mesure où les accusés ont accepté des arrangements avec le procureur, parfois pour une peine plus clémente. Les observateurs judiciaires affirment que des centaines de cas restants prendront des années à être jugés.
Au Soudan, des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues à travers le pays pour dénoncer le pouvoir militaire, quelques jours après la démission du premier ministre civil, Abdallah Hamdok. Un manifestant a été tué par balle, a annoncé un comité des médecins pro-démocratie. Le point avec Rosine Mounezero.
Malgré une forte présence policière à Khartoum, les manifestants se sont dirigés vers le palais présidentiel dans le centre de la capitale. Les rues autour du palais et du quartier général de l'armée tout proche ont été fermées à la circulation. Nous continuerons à manifester jusqu'à ce que nous ayons remis sur les rails notre révolution et notre gouvernement civil, a déclaré Mojataba Hussein, 23 ans. Le 25 octobre, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a mené un coup d'État, mettant fin à une transition vers un pouvoir civil. Le premier ministre civil, Abdallah Hamdok, a été réinstallé avant de démissionner le 2 janvier, après une autre journée de manifestations violemment réprimées. Depuis le coup d'État, au moins 57 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées, selon un comité des médecins pro-démocratie.
La Chine va nommer un envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique. Annonce au Kenya du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, aujourd'hui marquant la volonté de son pays de s'impliquer diplomatiquement dans cette région en proie à divers conflits. Jacques Aristide.
Wang Yi, qui a entamé hier une tournée africaine en Érythrée, au Kenya, puis aux Comores, affirme que la Chine veut ainsi encourager le dialogue face aux défis de paix et de sécurité. Nous allons continuer à jouer un rôle encore plus grand pour la paix et la stabilité de la région, indique le chef de la diplomatie chinoise. Wang Yi affirme également que la Chine ne piège pas l'Afrique dans la dette. Il va notamment visiter divers projets d'infrastructures financé par son pays. Pékin est souvent accusé d'utiliser son statut de créancier pour arracher des concessions diplomatiques et commerciales, provoquant l'inquiétude quant à la capacité de nombreux États africains à soutenir les dettes contractées. Le périple africain de Wang Yi suit celui qu'a effectué en novembre dernier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et coïncide avec l'arrivée de l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, attendu ce jeudi en Éthiopie, secoué depuis plus d'un an par la guerre au Tigré. Selon le département d'État, Jeffrey Feltman va tenter une nouvelle fois d'amener les belligérants à la table des négociations sur fond d'accalmie dans les combats.
Au Nigeria, des hommes armés ont kidnappé 3 employés chinois travaillant sur un projet de barrage hydroélectrique dans le centre du pays, tuant également 2 travailleurs locaux. Les assaillants ont attaqué mardi après-midi les employés du projet Sino Hydro dans l'état du Niger, a déclaré Wassiou Abiodun, porte-parole de la police de l'état. Par ailleurs, 3 pirates présumés arrêtés par la marine danoise en novembre après une fusillade au large du Nigeria vont être relâchés et ne seront pas poursuivis au Danemark. En Égypte, 2 hommes ont été arrêtés par la police jeudi après le suicide en décembre d'une adolescente qu'ils auraient fait chanter en publiant des images montées d'elle sur Internet, une affaire qui a causé un tollé en Égypte.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Kazakhstan, les médias russes annoncent qu'au moins 18 membres des forces de sécurité ont été tués et 748 autres ont été blessés dans des émeutes qui secouent le pays depuis plusieurs jours. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a demandé jeudi à son homologue kazakh, Mukhtar Tilioberdili, une résolution pacifique de la crise. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. 2 joueurs de l'équipe gabonaise, le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, sont positifs au Covid-19 à un test antigénique effectué ce jeudi. Ils attendent le résultat d'un test PCR à 4 jours du premier match des Panthères à la CAN, a annoncé leur sélectionneur. Aubameyang et Lemina ont effectué un test PCR de confirmation. Ils sont actuellement à l'isolement dans leur hôtel, a déclaré Patrice Neveu, précisant que les joueurs n'ont aucun symptôme. Les Panthères du Gabon doivent affronter les Comores le lundi 10 janvier. Les coéquipiers d'Aubameyang ont été battus dimanche lors de leur stage de préparation à Dubaï par le Burkina Faso 3-0. Le Sénégal compte aussi des cas positifs de Covid détectés dans son effectif, selon un responsable du ministère sénégalais des Sports. Il s'agit de Saliou Cisse, Lou Ndiaye et Habib Diallo. En plus d'autres cas suspects, ajoutant que les Lions testés positifs doivent être mis en quarantaine. Le Sénégal, qui n'a jamais gagné la CAN, a raté le coach en finale en 2002 contre le Cameroun et en 2019 contre l'Algérie. Les Lions, menés par l'attaquant de Liverpool Sadio Mané et le gardien de but de Chelsea Édouard Mendy, débuteront leur compétition face au Zimbabwe le 10 janvier. La CAN, vous le savez, se tiendra après des tentatives de report qui ont finalement échoué. La plus grande fête africaine aura bel et bien lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Depuis Libreville au Gabon, notre consultant Jules-Valentin Ngoué revient sur toutes ces bisbilles qui ont prévalu avant cette CAN.
En confiant logiquement au Cameroun l'organisation de la phase finale de la prochaine CAN après le Gabon en 2017, rien ne laissait penser que cette désignation unanime allait provoquer un feuilleton rocambolesque long à arrêter. Les tourments que le Cameroun a connus depuis lors sont véritablement immérités. Lorsqu'on se rappelle sa contribution incomparable pour la reconnaissance du football africain à l'échelle mondiale, que ce soit au niveau de sa gestion ou pour les résultats obtenus. Nous rappellerons sur le site que ce sont 2 anciennes gloires camerounaises, Eugène Joléa et Joseph-Antoine Bell, qui posèrent l'un les bases à venir d'une professionnalisation du football subsaharien et l'autre celle de l'amélioration des conditions salariales des joueurs africains opérant en Europe à l'heure où l'arrêt Bosman leur ouvrait des horizons nouveaux. On se souvient aussi du long mandat largement positif à la tête de la CAF du président Issa Hayatou, au point d'être honoré comme président intérimaire de la FIFA après le FIFA Gate. Lui, l'Africain, a remis le navire à flot. Que dire encore de l'épopée glorieuse de Roger Mila et de ses Lions lors du Mondial italien de 1990, celle-ci obligea la FIFA à redessiner l'ordre mondial du football au profit de l'Afrique. Alors comment comprendre que l'accouchement d'une Coupe des Nations au Cameroun ait pu être si douloureux, sans vouloir rentrer dans d'éventuelles thèses polémiques ou complotistes difficiles à prouver? Nous pouvons affirmer que la problématique réelle réside dans la convergence de défis nouveaux. Il y a d'abord le défi structurel, né du passage à 24 participants, qui a imposé des infrastructures à ce niveau, ainsi qu'une capacité d'organisation hors pair. Au vu du plateau technique présenté et de la répétition du champ, ce défi a été relevé. Il y a ensuite le double défi conjoncturel face à la sécurité et également à la conjoncture sanitaire du moment avec la persistance de la pandémie de la COVID. En fait, ces deux défis concernent toutes les grandes compétitions actuelles et il faut faire avec. Alors, il ne nous reste donc plus qu'à croiser les doigts, car du succès du Cameroun dépend le sort de toute l'Afrique profonde. En effet, en cas d'échec, l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord auront encore pour longtemps le monopole de l'organisation des rencontres internationales de très haut niveau. Et ce n'est pas notre souhait. Vivement que la fête commence à dimanche.
Merci Jules. C'est tout pour cette page spéciale du jour consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations.
Merci à Kouba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des centaines de miliciens démobilisés de différents groupes armés cantonnés dans le camp de Moubambiro, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, déplorent les conditions dans lesquelles ils vivent. Ces miliciens, qui se sont rendus depuis quelques années, ont d'ailleurs manifesté leur colère dimanche dernier en barricadant la route Goma-Sake avant d'être dispersés par l'armée congolaise. La répression a fait un mort. Le reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
À Moubambiro, à plus de 20 km de la ville de Goma, sont logés les ex-rebelles démobilisés des différents groupes armés de la région. Ils ont déjà passé plusieurs années à atteindre leur réinsertion ou leur réintégration. Ces processus tardent à venir alors qu'ils vivent des situations qu'ils jugent inhumaines, caractérisées par le délabrement de leurs cases, le manque d'eau, des soins et de nourriture. Monsieur Kakule Musingi est un ancien rebelle de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, un groupe rebelle opérant dans le Nord Kivu et dans la province d'Ituri.
Na depuis tumemaliza hapa miaka mingi tumechoka hapa kukula hatukule mzuri magonjwa wengine wanagonjwa na kisuda tunataka chikosa na kidemobe sema tukichukua mgini yetu tunataka chikosa.
Les responsables du camp révèlent qu'ils ont déjà enregistré des dizaines de morts parmi les ex-rebelles. Ces morts sont enterrés même dans les camps. Kasilengi Akiza, un ex-rebelle, craint une augmentation du nombre de décès dans les jours à venir en raison du manque de la prise en charge. Il appelle les autorités à l'aide. La non-prise en charge de ces ex-rebelles pèse aussi sur les habitants environnants. Léopold Mouicha, président de la société civile de Kamuronza, dit avoir enregistré des cas d'extorsion et des vols perpétrés par ces ex-rebelles et plaide pour la délocalisation du camp.
Et j'aimerais à ce que aussi ces derniers puissent être délocalisés parce qu'ils ne sont pas vraiment en bonne relation avec la population. Bon, il y a eu des casses, il y a eu des vols, il y a des extorsions, voire même des coups et blessures.
En octobre 2020, le président Félix Tshisekedi s'était rendu dans ces camps pour s'imprégner de leur situation. Il leur avait promis que leur situation serait vite résolue, mais ces anciens rebelles attendent toujours. Zanem Neti Zaidi à Moubambiro pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Depuis plus de deux semaines, les cas de contamination au Covid-19 ont considérablement augmenté en Côte d'Ivoire. La présence du variant Omicron est confirmée par les autorités sanitaires. Le point avec notre correspondante sur place, Aïcha Diarra.
Plusieurs Ivoiriens se plaignent de grippe, mais une grippe sévère à Wabakayeko traîne encore des séquelles.
J'ai commencé à avoir des démangeaisons au niveau de la gorge. J'ai essayé de prendre des calmants, des paracétamol, pensant que ça allait passer, mais vraiment ça n'a pas été facile. Ça m'a fatiguée. Je faisais la fièvre, des frissons, j'étais vraiment fatiguée. J'ai resté tout le temps couché. C'est beaucoup gênant, ça va, il y a du mieux. C'est pas totalement parti, mais ça va.
La plupart des malades préfèrent rester à la maison pour une automédication plutôt que de se rendre à l'hôpital. Pour eux, c'est juste le petit corona. Diarra Cheikh Idriss.
Je n'avais jamais vécu ce genre de grippe-là. C'était quand même un peu terrible. Mais bon, je n'osais pas imaginer que ça pouvait être le corona que tout le monde connaît. Donc, je ne suis pas allé à l'hôpital, à vrai dire. Je me suis soigné moi-même à la maison. 10 jours comme ça. Mais il faut dire que les symptômes, vraiment, quand tu regardes bien, ça ressemble vraiment au petit corona. Au niveau de la santé, ça va. Mais il y a les écoulements nasales qui continuent toujours, qui ne se sont pas encore arrêtés. Cette grippe-là, ces derniers jours, elle est vraiment répandue. Si c'est vraiment le variant Omicron qui est là, on ne sait pas. Mais on refuse de croire que c'est ça.
En ce qui concerne une épidémie de grippe en Côte d'Ivoire, le professeur Bénievro Joseph rassure. Il est le directeur de l'Institut national du jeune public.
Je voulais vraiment vous rassurer que jusqu'ici, contrairement à ce qui a été dit, qu'il y avait une épidémie de grippe, non, il n'en est pas encore question, en tout cas. Des données que nous avons, selon les sites Sentinel que nous avons, qui nous permettent de faire des prélèvements régulièrement, nous ne sommes pas encore au taux de 8%, qui est le seuil de déclaration d'une épidémie de grippe.
En Côte d'Ivoire, les mesures barrières ne sont plus respectées. Le plus flagrant est le refus du port des masques, même dans les lieux publics. Pendant la dernière quinzaine du mois de décembre, nous avons assisté à une augmentation des cas de Covid avec un pic pour la seule journée du 31 décembre. Avec près de 3000 nouveaux cas. Pour Muriel Dosso, directrice de l'Institut Pasteur à Abidjan, jusqu'à la mi-décembre 2021, c'était essentiellement le variant Delta. Mais à partir du 15 décembre, il y a une émergence du variant Omicron.
Dans la période où nous sommes, il ne faut pas se cacher. Actuellement, quand quelqu'un tousse, quand il a mal à la gorge, quand il ne se sent pas bien, dans 95% des cas, c'est du Covid. Et le seul moyen pour le savoir, c'est d'aller faire le test. Si vous connaissez le résultat de votre test, vous allez vous protéger pour ne pas vous réinfecter avec une autre souche, mais aussi vous allez protéger votre entourage.
À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 75 000 cas confirmés avec 727 décès et seulement 7 millions de doses de vaccins totalement administrées à près de 2 millions de personnes. Aïcha Diarra, Abidjan pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24. Le Nigeria, qualifié de groupe terroriste, les gangs criminels connus localement sous le nom de bandits. Ils sont accusés d'enlèvements massifs d'élèves et d'étudiants pour des rançons et de destruction de biens entre autres crimes. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Dans les états du nord-ouest et du centre-nord du Nigeria, des gangs lourdement armés lancent souvent des attaques pour piller des villages, voler du bétail et procèdent à des enlèvements contre rançon. La violence s'est propagée dans tous les coins du pays, exerçant une pression sur le gouvernement fédéral qui lutte déjà contre Boko Haram, sa faction rivale. Le président nigérien Muhammadu Buhari menace à nouveau les auteurs de ces crimes.
Dans le nord-est, ce sont les mêmes gens, la même culture. Ils volent entre eux-mêmes, ils se tuent entre eux-mêmes et brûlent des villages. Donc le seul langage qu'ils comprennent est d'aller contre les terroristes. Nous les appelons les terroristes et nous allons régler leur compte.
Le gouvernement nigérian vient donc de qualifier les activités des bandits armés d'actes de terrorisme. Des sanctions plus sévères seront appliquées en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme pour les bandits présumés, leurs informateurs et leurs partisans comme ceux qui seront surpris en train de leur fournir du carburant et de la nourriture. L'activiste Hidayat Hassan est directrice du Centre pour la démocratie et le développement a encore quelques réserves.
Nous ne savons pas quel impact cela aura sur la lutte contre l'insécurité. Pour le moment, nous ne savons rien. Peut-être que cela va encore donner plus de force aux criminels d'agir comme des terroristes pour terroriser davantage les gens et devenir plus radical, surtout lorsque certains pensent que le dialogue peut être la solution pour résoudre la crise.
Les forces de sécurité mènent depuis un certain temps des raids aériens et ont coupé les lignes téléphoniques dans certaines parties du nord-ouest du pays dans une offensive contre les gangs criminels et leurs cachettes dans les forêts. Yaouza Gebso est un expert en renseignement de sécurité et d'enquête.
La situation risque vraisemblablement de rester la même. Je vous donne des exemples. ASN et le mouvement Biafra ont été désignés comme des terroristes. Issoufa et Boko Haram aussi, mais ils continuent toujours à perpétrer des attaques. S'ils sont vraiment sérieux et engagés, ou s'ils veulent faire quelque chose, les Nigériens attendent de voir ce qui va se passer à partir de maintenant jusqu'à la fin du mandat de ce gouvernement.
L'année dernière, ces gangs ont fait la une des journaux avec une série d'attaques très médiatisées contre les écoles et les collèges, enlevant des dizaines d'élèves contre rançon. Certains sont toujours en détention. L'annonce du gouvernement fédéral intervient plus d'un mois après qu'un tribunal d'Abuja a rendu une décision similaire contre ces gangs. Cette décision devrait donner aux militaires l'utilisation dont ils ont besoin pour utiliser la force pour les combattre plus efficacement. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
Après ses écouteurs de traduction sans fil, Minamu Click Plus et Minmamu Click S, le Ghanéen d'origine, PDG et fondateur de la marque Mimanu, Dani Manu, revient avec un nouveau type d'écouteur appelé Titan. Il a révélé cette dernière invention au CES de Las Vegas 2022. Notre envoyé spécial Arioma Compaoré est allé à sa rencontre.
Nous sommes là pour présenter notre dernière innovation. Les premiers écouteurs connectés à la 4G au monde. Ce produit, comme vous le voyez ici, vous permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques, d'envoyer des SMS et de faire de la traduction instantanée, le tout sans votre téléphone. Donc, Arzoma, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous pouvez aller à la salle de gym et verrouiller votre téléphone. Et malgré tout, vous pouvez toujours appeler. Vous pouvez envoyer des messages écrits tout en utilisant votre voix. Donc, vous pouvez dire, OK, Maïmanou, appelle Arzoma sans votre téléphone et il appellera. Le principe est le suivant. Vous contactez votre opérateur, vous lui dites que vous avez les écouteurs Titan. Ensuite, vous payez votre profil et SIM, vous le téléchargez sur l'appareil et vous pouvez alors transférer tous vos contacts que vous avez sur votre téléphone, sur celui-ci, y compris votre musique. Vous pouvez écouter votre musique, passer des appels et envoyer des SMS.
Quel genre de technologie avons-nous là-dedans?
Ce produit utilise la technologie SIM, une micro-puce qui vous permet, comme une carte SIM physique, de contacter un fournisseur qui pourra utiliser votre numéro de téléphone. En plus de cela, nous avons une traduction intégrée à partir de My Juno Translate à notre propre système propriétaire qui est livré avec. Et c'est également monté avec notre dernier logiciel de système d'exploitation.
C'est un CES plutôt atypique. Tout le monde est en quelque sorte derrière un masque. Je veux voir votre visage, je ne peux pas. Je veux voir le vôtre, je ne peux pas. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, le fait que, malgré, vous savez, Omicron et toutes les choses qui se passent, vous avez quand même tenu à venir à un événement comme celui-ci? Alexander Delmaking est le directeur commercial de CEH Technologies.
Nous avons dû voyager, comme mes collègues vous diront, 48 heures avant de savoir si nous pouvions poser nos têtes à cause de toutes les restrictions et tout le reste. Nous sommes passés par là parce que nous voulions faire passer notre message au monde, qui est de faire tomber les barrières. Dans un monde où il y a toutes ces grandes entreprises, il y a toujours des gens qui peuvent innover et entreprendre pour arriver au sommet.
Merveilleux, merveilleux. Parfois, la technologie, c'est juste à côté de vous, autour de vous. Vous devez juste regarder autour de vous et c'est ce que Maïmanou a fait. Alors maintenant, ils sont capables d'aider beaucoup de gens, non seulement à passer la barrière de la langue, mais aussi la barrière de la technologie. Une innovation à suivre de très près.
La fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Georges Léonard Sagnot qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaf.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.